Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Salut à tous, c'est le Super Moscato Show sous le soleil du mois d'août. Il fait très très chaud cet été à Paris et partout en France. Là, vous êtes en vacances.
Salut Pierrot, ça va?
Tu m'as l'air. Ça va pas, j'ai trop chaud là.
Tu m'as l'air dissipé là, que se passe-t-il?
J'ai très chaud.
En plus, t'as cassé ton vélo, je crois, donc tu viens en métro au travail.
Voilà, il faut
faire chaud dans le métro.
Il faut trouver un réparateur au mois d'août.
C'est pas facile. C'est pas
dans
facile.
Dans Paris.
Oui.
Parce que je suis pas très bricoleur.
Tu vas trouver. On a un très joli programme. Bon, on va bien rigoler aujourd'hui.
On va se rafraîchir avec des débats très sympas. Alors, notamment le nouveau hors-jeu, le hors-jeu Wenger qui m'énerve. Moi, ça m'énerve.
C'est en cheval de bataille, là. C'est une jolie expression cheval de bataille. Bon, allez, vas-y, on se reprend.
Ensuite.
On le fait proprement. Vas-y, Pierrot.
Ensuite,
allez.
Habib Bey.
Concentre-toi.
On reviendra sur la demi-saison difficile d'Habib Bey à Marseille.
Coupable ou victime?
Voilà.
Habib Bey.
C'est un bon débat, ça.
Oui, c'est ton débat préféré, ça. On aura Fabien Galthié, invité exceptionnel dans le Moscato Show.
Ça, c'est à 17h.
C'était juste après le tournoi, à 17h. Fabien, rappelle-toi cette phrase magnifique, quand il nous a regardés tous les deux.
Oui.
Et il évoquait Jalibert Ntamack. Prenez soin d'eux. Faites attention à eux, prenez soin d'eux.
Et peut-être que du coup, on profitera de la présence de Fabien pour écouter un autre sélectionneur.
Un sélectionneur, tu dis?
Un ancien sélectionneur.
Très bien, très bien. La suite, Pierrot. Dorian Louvet. Tu connais
Dorian Louvet. Exceptionnel, Dorian Louvet.
Après ses 7 marathons aventuriers incroyables, il était venu nous en parler dans le Moscato Show. Et puis toutes vos rubriques préférées à 15h45, le journal moyen première édition. Souviens-toi, c'était je vous avais diffusé une critique d'un journaliste belge, un critique ciné, sur le Marsupilami, film. Il avait découpé le film. C'était très dur, on avait bien rigolé. Et puis deuxième édition à 16h45 avec pas mal de vent radiophonique de Vincent Moscato, on adore ça.
Et puis bien sûr il y aura aussi d'autres petites surprises tout au long de cette émission. On
ne
peut pas tout vous dire dès 15h évidemment.
Ça donne envie.
Allez, on démarre avec le nouveau hors-jeu d'Arsène Wenger.
Et si on changeait tout sur la règle du hors-jeu dans le foot?
C'est comme ça à bord.
On nous fait une polémique dans un verre d'eau pour un tour.
Vous en avez peut-être marre des hors-jeux sifflés pour quelques millimètres.
Tu peux pas simplement balayer ça du revers de la médaille.
Pour un bout de crampon à peine perceptible.
De bloquer tous les espaces pour pas que puisse s'y gonfler, mais...
Eh bien, la règle va peut-être bientôt changer.
Et pourquoi on reprendrait pas le football?
En disant on est les dindons de la foire.
Il est toujours le baiser de la farce. Avec Arsène Wenger, l'attaquant sera considéré hors-jeu seulement si l'intégralité de son corps dépasse celui du dernier défenseur.
C'est quand même les cocus de la farce là-dessus.
Et les seuls baisers de la farce, là, une règle qui pourrait être expérimenté dès cette saison sur des compétitions mineures.
On a besoin de redonner le blason, de faire redonner le blason à cette...
Ça ne serait pas la première fois qu'une avancée est impulsée par Arsène Wenger.
Il est arrivé sur ses grands sabots là.
Déjà à l'origine de la détection automatisée du hors-jeu.
Ah, Big Ben te regarde.
Ou encore de la sonorisation des arbitres.
Moi je ne veux pas rejoindre la meute pour aboyer dans le vide.
Levez des doutes. Si vous en avez, je ne sais pas si ça vous allez les lever.
Moscato, il va te le régler le problème.
À la fin, c'est de l'anglais, Didier, là, non?
C'est pas rigolo.
Ah, c'est de l'anglais. Ah,
c'est de l'anglais, à la fin, mais oui, vous n'avez pas compris.
C'est ça, la NASA. Ça, c'est la véritable NASA.
À la fin, il finit comme ça.
Et là, on a quand même le gratin du foot français.
Non, mais là.
On a Boli, Manu Petit, Willy Sagnol, Manu Amoros. Tous ses potes confondus, c'est le gratin.
Eric, on y met le cœur à l'ouvrage au rugby, tu vois, on essaie de vous rattraper. Là, c'est beaucoup trop.
Pourtant,
on essaie.
Je vous fais confiance, vous nous rattrapez à Xampa.
C'est bizarre, Vincent. Hugo Molin, il en fait jamais, c'est bizarre.
Il est ingénieur aéronautique, Hugo Molin.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Qui sert à mon entraîneur du football? Écoute-moi, ça fait pas Hugo Molin.
En tout cas, j'espère qu'on va bientôt redonner son blason au football, comme le dit Boli.
Le blason? Oh, le blason! Et le revers de. Il y a le revers de quoi?
De la main. De la main.
Ah ouais. Ouais, de la médaille.
Bon, alors, on y va, c'est parti. La FIFA teste la nouvelle règle du hors-jeu imaginée par Arsène Wenger. À partir de samedi, le championnat canadien appliquera une nouvelle règle du hors-jeu, un changement radical. Désormais, un joueur sera considéré hors-jeu lorsque tout son corps, l'intégralité de son corps, sera au-delà du dernier défenseur. C'est censé rendre le hors-jeu plus lisible et favoriser le jeu offensif. On va régler ce problème tout de suite dans le Super Moscato Show sur RMC. D'abord, entrons dans le détail de la règle avec François Pinet. Salut François.
Salut les amis du Moscato Show.
Alors, qu'est-ce que ce nouveau hors-jeu de Wenger ?
Effectivement, hein, ça ressemble à une révolution parce qu'on touche à l'une des règles les plus fondamentales du foot. Actuellement, on rappelle quand même qu'un joueur est considéré comme hors-jeu si une partie de son corps, sauf les bras et les mains, dépasse le dernier défenseur. Et donc, avec cette loi Wenger, effectivement, il faudra que le corps entier de l'attaquant soit devant le dernier défenseur pour qu'il soit considéré comme hors-jeu, ce qui veut dire que l'attaquant pourra devancer le dernier défenseur et ne pas être signalé hors-jeu si une partie de son corps avec lequel il peut marquer un but, un pied, une jambe, et sur la même ligne que le dernier défenseur. Pour être clair, voilà, je sais que c'est pas radiophonique, mais je vous fais passer quand même des petits documents.
Ne t'inquiète pas, la photo est en ligne.
Voilà, pour Denis et pour vous, les amis du Moscato Show, pour que vous compreniez bien quelle est cette loi Wenger.
L'objectif
est clair, c'est de promouvoir un foot plus offensif, oui. Puisqu'avec cette règle, la FIFA espère avantager les attaquants et voir donc plus de buts. C'est aussi pour clarifier les situations de hors-jeu. Éviter de refuser des buts pour un bout de genou ou pour un lacet de chaussure, comme on a pu le voir récemment lors d'un Lyon-Marseille. Il y a eu un but refusé à Tolisso pour vraiment quelques millimètres. La FIFA qui croit vraiment en cette loi parce qu'elle réfléchit à ça depuis 6 ans. Ça a déjà été testé, expérimenté dans des tournois de jeunes en Italie et en Suède. Et là, c'est la première fois que c'est un test grandeur nature avec des joueurs professionnels.
Est-ce qu'on a des résultats?
Si tu veux, à l'issue de la saison du Canada, on en saura plus, quoi.
Et après, pourquoi pas être appliqué pour les grandes compétitions type la Coupe du Monde.
Alors, Vincent, est-ce qu'il y a un problème à régler ou pas? C'est bien, c'est pas bien?
Je pense que il y aura toujours un problème sur l'enjeu, de toute façon, que ce soit le corps, le pouce, tu vois, tout ce qui dépasse. Je pense qu'il y aura toujours un souci. Donc, mais ce qu'il y a de bien, c'est déjà de ne pas rester immobile, de ne pas stagner. Tu vois, l'eau qui stagne, elle devient verte, ça pue. Et au bout d'un moment, c'est bien d'essayer de changer la règle, puisqu'il y a tout le temps des. Sur leur jeu, c'est l'enfer. Tout le monde gueule tout le temps. Donc, c'est bien de faire avancer. Bravo, Arsène Wenger. On va voir si ça marche. Moi, je pense que ça favorise le but. Quand t'es. Parce que vous êtes entre pros du football, c'est vrai que le football manque de buts. Alors il faut attendre la Champions League où il y a beaucoup de buts, mais le championnat, les championnats domestiques, c'est un peu lancinant, ça manque de spectacle. Et le spectacle, c'est les buts. Pour un supporter de s'extasier, tu le vois, il s'extasie pas sur une bonne défense, de temps en temps un bon tacle, mais ça devient tellement dangereux de faire un tacle, tu peux avoir des matchs de suspension, donc les mecs ils sont quand même moins habitués, mais tu vois les mecs qui crient, ils hurlent sur les buts, c'est ça qu'ils veulent voir. Donc peut-être que ça favorise le jeu. Je pense que ça favorise le jeu. Il me tarde de le voir. Après les contestations, il y en aura toujours parce que bon, ça sera est-ce qu'il a passé tout le corps, est-ce qu'il y avait un truc qui traînait, est-ce que voilà, ça là-dessus il y en aura. Mais au moins ça va favoriser le jeu. Moi, j'attends de voir, mais de bouger, de se secouer, d'aller vers de l'avant sur un truc où tout le monde gueule parce que Pierrot il gueule sur ça, il gueule très fort. Donc pour moi c'est important de bouger quand on n'est pas satisfait de quelque chose. Et je dis bravo. Et puis en plus, quand c'est Arsène Wenger qui parle. Les autres, tout le monde enlève sa casquette et l'écoute quand même, parce que c'est quand même un mec qui est entraîneur pendant 30 ans et tu vois, je trouve que c'est bien de faire avancer le truc parce qu'il va se contrer une multitude de rejets, et donc c'est bien parce que l'opposition, c'est bien, au changement est toujours très forte dans le football.
Mais Eric, c'est bien ou c'est pas bien?
Écoute, il y a deux débats dans ce débat finalement. Il y a la manière de juger le hors-jeu et ce que va amener du coup le fait que l'attaquant va avoir un gros avantage maintenant sur la nouvelle position de hors-jeu. Déjà, là où je suis d'accord avec ça, moi, connaissez. Ça me convient. Connaissez, dans un pays qui accepte d'essayer à un bon niveau, mais c'est pas le très haut niveau, mais le problème sera le même. Hein. Le problème du hors-jeu, tu sais, c'est pas un problème de niveau. Hein. C'est vraiment un problème de à tous les niveaux. Tu as le même problème du hors-jeu. Voilà. Donc que connaissez de faire en sorte qu'il soit mieux jugé ou qu'il soit moins compliqué à juger, pourquoi pas. Là où Vincent a raison, c'est que le millimètre qu'on voit là dans nos révélateurs, ce millimètre existera aussi dans la nouvelle formule, même si.
Mais non.
Le millimètre sera rempli d'air là, c'est-à-dire que ce sera peut-être un peu plus acceptable.
Plus facile.
Mais le problème sera le même. Il y aura des hors-jeux de 1 millimètre, pareil. Donc et il y aura des débats sur ce hors-jeu, ces lignes qu'on va mettre. Bon, ça c'est déjà le premier point, mais on va laisser la chance au produit. Par contre, le deuxième point qui risque de me gêner, que du coup j'ai envie de voir à l'usage, c'est ce que ça change pour le football, la réalité du football, le hors-jeu, d'abord c'est très dur, c'est-à-dire que quand tu fais le pressing,
jouer le hors-jeu,
jouer le hors-jeu, c'est-à-dire le faire sciemment, c'est-à-dire le faire en collectivement et le travailler. Moi, j'ai joué à une période où on le faisait, le Grand Milan de l'époque le faisait, on a tous voulu faire pareil, c'est-à-dire que tu fais monter le bloc très haut et tu joues le hors-jeu. Et je crois que dans cette fameuse finale de 93, si vous la regardez, il y a je sais pas combien de hors-jeu.
Même dans ton couple, t'étais souvent hors-jeu.
Alors moi, j'avais un gros problème, c'est que j'avais une queue de cheval. Donc c'est j'ai dit la queue de cheval derrière la tête, les gars. Ne vous trompez pas.
On avait bien compris. Mais loin de nous de penser que tu pensais autre chose.
T'as dû avoir mal quand tu l'as coupé, d'ailleurs.
Surtout qu'on sait que c'est pas vrai.
Donc, surtout que c'est pas vrai. Ceux qui en parlent le plus généralement. Donc moi, là j'ai un problème. Là j'ai un problème parce que déjà avec la règle d'aujourd'hui, ben, l'attaquant s'il est malin et surtout les défenseurs quand ils jouent mal leur jeu, ils sont punis. Là, j'ai bien peur que même en jouant bien leur jeu, tu sois puni.
Ça va me
gêner. Alors, tu sais quoi, Vincent, parce que il y a plein de gens qui sont pas initiés au football, voire même des gens qui sont initiés au football, qui un jour on dit, mais si on enlevait leur jeu, mais c'est plus le football. Et là, je vous dis que j'ai un gros doute sur, et je parle plus de la ligne de
et qu'est-ce qui se passe, Eric, si on joue plus le hors-jeu, tu joues beaucoup plus bas, en fait.
Ah bah il y a plus de ligne de défense.
Donc,
mais il est nettement plus lâche. Hein. C'est pas juste une évolution, c'est une révolution. Hein.
Ah oui, mais c'est l'homme sur l'homme. Hein. C'est sur l'homme, hein, quand même. C'est pas.
Oui, mais t'avances.
Commençons pas à dire qu'il n'existe plus de. Non, commençons pas à dire qu'il n'existe plus de.
Personne l'a dit.
Non, Eric, tu l'as pas dit, mais Pierrot, il va le dire tout à l'heure.
Je l'ai pas dit. Donc ne t'énerve pas.
Tu vas le dire.
Non, par contre, t'avances la ligne de hors-jeu d'1m50.
Ce qui est énorme.
Pas de 15 cm.
Donc tout ça pour dire que sur les deux points, j'ai un gros doute et j'espère que ça va pas dénaturer le foot. Et je pense que ça va continuer les discussions, mais on laisse la chance au produit.
Denis Charvet. Alors moi, je pense que c'est très très bien. J'attends de voir. Pourquoi ? Premièrement, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est-à-dire que moi, ce qui me rend fou, c'est de voir les hors-jeux. Non, mais c'est pas ça. C'est le vrai problème du hors-jeu aujourd'hui, c'est que on le siffle à tort et à travers. Même avec la VAR, on ne sait pas. Il y a des fois, c'est ça qui rend fou quand même aujourd'hui. Alors que là, si le joueur
avec
est
la VAR,
devant.
Tu sais, hein.
Oui, enfin, tu sais, mais ça, elle se trompe parfois. Elle se trompe parfois.
Non, elle se trompe pas, la VAR. C'est ça, le problème.
Tu sais, mais c'est anti-foot.
Demande à Pierrot, il va te l'expliquer.
C'est toujours la même interprétation.
Là, il n'y a pas d'interprétation. Oui,
sauf que là, le joueur qui sera devant, mais il sera en jeu. C'est très clair pour moi. La ligne hors-jeu, il sera très clair. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est l'autre débat. C'est l'autre débat. Par contre, je pense que les défenses vont s'adapter. Et c'est en ça qu'il faut,
comme toujours,
que ça va être la révolution, voilà. En fait. Mais c'est pour ça que je crois beaucoup à ce projet.
Mais comment elles vont s'adapter, les défenses? Mais c'est ça le risque.
L'anticipation, en bloc, en collectif, ça va faire la même chose par rapport à l'adversaire. Mais si.
Ou tu vas jouer beaucoup plus bas.
Denis, bien sûr, tu veux jouer beaucoup plus bas.
Personne n'a dit que les joueurs ne s'adapteront pas. Tout le monde s'adapte. La Formule 1 s'adapte à ce qui se passe. Vous vous êtes adapté.
C'est pour ça que
le football va s'adapter. Mais non, mais parce que justement, de s'adapter, ça veut dire que tu vas être obligé de ne plus, pratiquement plus jouer le jeu, ou de le jouer beaucoup moins, parce que ça va être trop risqué, et ça va dénaturer le jeu.
C'est-à-dire
le problème,
c'est pas
que le joueur
intérêt à jouer haut, par exemple.
C'est
très difficile de jouer haut.
Mais ça va changer beaucoup de choses, oui. Voilà. Mais qui te dit que ça sera pas mieux?
C'est pas que ce sera pas mieux ou moins bien, ça sera trop différent. Moi, c'est ça qui me dérange, si tu veux.
Alors moi, je te promets, Pierrot, je te promets que si les mecs jouent 20 mètres derrière, ça va être catastrophique au niveau du jeu.
C'est fini.
C'est plus le football. Appelez-le dans notre jeu.
Tout le monde va avoir des arguments, c'est bien, c'est pas bien pour un truc
annexe ou important, mais parce que ce sera plus lisible le hors-jeu si vous voulez. Mais moi, en fait, il y a plus important que ça, que la lisibilité du hors-jeu. C'est que là, on touche à une règle fondamentale du football de manière drastique.
Pas de manière mesurée.
C'est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a deux règles en football qui sont pas comme les autres, c'est le penalty, le hors-jeu, et ben tout le foot en découle. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si t'as pas de ligne de hors-jeu, tu n'as pas de ligne de défense.
Il y en a toujours une ligne de hors-jeu.
Donc, toutes les tactiques sont basées là-dessus. 4-4-2, 4-3-3, ce que vous voulez, ça dépend d'une ligne de hors-jeu. Si tu fais sauter cette ligne de hors-jeu-là, tout change. Alors, ça peut changer en mieux, si vous voulez, mais ça sera fondamentalement différent. Et moi, c'est ça qui m'ennuie dans ce truc, c'est que ce ne sera plus le même sport.
Et ça sera peut-être un autre sport qui sera très bien, mais c'est simple.
C'est Vincent, je vais vous faire une analogie. Je vais pas parler de trois jours. Je vais vous faire une analogie. Dans votre sport, tu prends le même rugby avec les mêmes règles et tu avances la ligne de hors-jeu d'1m50. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'être derrière celui qui tape au pied, tu fais attrape à courir, comme tu dis, avec 1m50 d'avance. Bah, ça change tout. Au lieu d'être hors-jeu derrière la mêlée, tu es hors-jeu 1m50 au-delà de la mêlée. Mais c'est plus du tout la même chose. Tout change, toutes les tactiques, toutes les adaptations, toutes les défenses, tout change. C'est colossal, alors, en fait.
Moi, j'aime le foot avec un hors-jeu où tu dois être couvert pour ne pas être hors-jeu.
Parce que la qualité de la passe d'Iniesta, eh ben, elle dépend de cette règle, par exemple.
Oui, mais il y a beaucoup de buts qui avaient été refusés. Si c'est
faire une passe depuis la défense centrale en profondeur et courir,
il
y a eu des buts refusés et on a dit c'est contre l'esprit du jeu. Pierrot, tu ne pouvais pas supporter de voir un but refusé pour quelques millimètres.
Les buts refusés pour un millimètre, c'est dû à une nouvelle technologie qui s'appelle la vidéo. Donc, pour moi, c'est une bêtise de juger leur jeu de cette manière. Donc, remplacer une bêtise par une plus grosse bêtise, ça ne règle aucun problème. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire que si la raison de mettre 1m50 de hors-jeu, c'est pour éviter les buts au millimètre, bah c'est encore pire. Donc le faisons
dès
pas.
Dès que
c'est...
vous sortez de votre zone de confort, ça va pas.
C'est une zone de confort. Vous n'arrivez pas
à voir plus loin que le bout de votre nez. Alors,
je te fais une autre analogie, Vincent. En tennis, on réduit le carré de service de 15 cm. Mais peut-être ça va être bien. Mais ça va être fondamentalement différent. Parce que tu n'auras plus la même puissance au service.
Tu t'en fous que ce soit différent. C'est pas si juste la différence.
Mais Vincent, je te dis, je m'en fous pas que ce soit différent. Moi, je veux pas que le sport change fondamentalement.
Mais les mecs ont 20 ans, 25 ans, 30 ans qui vont être habitués à ça, s'ils voient
plus de buts. Si eux, ils sont contents, moi, je vous dis, ça peut me dégoûter du football, je vous le dis très clairement.
T'as l'ancienne école,
le problème. Mais c'est surtout que.
Je m'en fous que ce soit l'ancienne école, je vous dis ce que je ressens.
Je te pose une question pour vraiment les gens qui ne connaissent pas en détail. Quel est à l'extrême, quel peut être le défaut et le vrai travers qui fout en l'air le foot? C'est quoi? C'est que les défenses soit trop basse et que les grands tacticiens disent on joue plus leur jeu, c'est fini, on le joue plus, on peut pas.
4 buts qu'il y aura de plus dans le match, ce soit un mec qui part tout seul au but
derrière le mec, vous dites que les défenses ne peuvent pas monter, parce qu'il y a toujours une ligne de hors-jeu, mais Denis, tu peux quand même accepter que jouer haut deviendra très risqué.
Tu peux continuer. Et c'est simple. Ça donne un avantage à l'attaquant sur la hauteur de la défense, on ne dit pas que ça change rien.
Jouer leur jeu dans la règle d'aujourd'hui, c'est déjà très compliqué. Tu as qu'à le voir. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire proprement. Et donc, imagine ton équipe qui a une grande qualité tactique, technico-tactique, voire d'intelligence de jeu, parce que ça va plus loin, et à qui on enlève cet avantage par rapport aux autres. Mais alors, donc, ça veut dire.
Est-ce que tu verrais d'un bon œil que demain, en rugby, on ait le droit de partir 1m50 devant le buteur sur un coup de pied en profondeur?
Oui, mais là, ça me choque pas parce que c'est. Faut que le.
Non, mais sur le rugby, sur ton sport.
Là, c'est pas 1m50.
Bien sûr que c'est 1m50. Mais au rugby, il n'y a pas de problème d'enjeu. Mais au foot non plus, il n'y a pas de problème.
Mais non plus, il n'y a pas de problème d'enjeu. Il n'y a pas de problème d'enjeu. Qu'est-ce que vous racontez?
Si, il y a un problème d'enjeu au foot.
Il y a un problème d'enjeu quand même.
Mais non, il y a un problème d'enjeu.
Si Arsène Wenger, c'est le problème.
Là, non, oui, pour le coup, pas, c'est une énorme
révolution de l'enjeu.
Il y a le problème, mais parce que il y a le problème, il y a le problème du jugement du hors-jeu. Mais il y a pas un problème avec le hors-jeu dans le foot.
C'est quoi les
Quand tu m'as dit qu'il fallait laisser la chance au produit, Eric, j'ai compris. Tu t'es vite rabattu après.
Non, parce que non, mais ça, tu comprends pas. Ce que je veux le voir pour montrer que les travers qu'on imagine, tu sais, la VAR. On a fait 5-4 000 débats sur la VAR.
Donc,
ça n'évitera pas les discussions, ça n'évitera pas les erreurs d'arbitrage, ça va ralentir le jeu, et ça va créer, ça va créer un autre football. Ben, les discussions sont toujours là, les sentiments
ça crée un autre football,
la VAR. Non, ça n'a pas créé un autre football. Par contre,
c'est pas la même révolution, c'est un changement de règles, c'est pas
le changement. Non, mais on revient à ce que vous aviez dit au départ. On revient pas à ce que maintenant vous avez constaté que c'était pas la même chose.
Si tu me dis que quand un buteur il marque un but,
non, mais vous avez dit que ça allait changer le football. Moi, je crois pas que ça change le football. La VAR.
Alors, tu regardes pas.
Vous l'aviez dit. Ah bah, moi, j'attends pas.
C'est pas les mêmes matchs, mais c'est pas grave. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui sur le. Merci à François Pinet.
Avec plaisir.
Ça a été testé au Canada, hein, comme on l'a dit dans ce débat.
C'est en cours.
Et c'est nul. Et c'est nul.
Bien sûr.
Pas la peine d'insister. Dans un instant, Maxime Lucu est-il devenu un joueur hors norme? Est-ce qu'on le compare désormais à Antoine Dupont? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le Super Moscato Show, vous êtes sur RMC. Dans une demi-heure, l'OM, Habib Bey et sa demi-saison à peine compliquée. Mais est-il le coupable ou la victime de cette fin de saison pourrie de l'Olympique de Marseille?
Ce sera à 16h. Journal moyen première édition, 15h45, avec un critique belge extraordinaire qui avait découpé un film français. Film français qui finalement a bien marché. Donc ça va, la critique n'a pas porté de malheur au film.
Et puis, un invité très original dans 10 minutes. Il fait du foot freestyle. Il s'appelle Tristan Gack et il sera notre invité dans quelques minutes après le débat sur Maxime Lucu.
RMC, le Super Moscato Show.
Le rugby, son rêve d'enfant.
On dit souvent qu'un sportif, c'est un enfant déguisé en adulte.
6 saisons ici à Bordeaux.
C'est pas gavé, on n'est pas sur la Méditerranée, il y a de l'air.
Le socle d'une équipe en progression.
Aïe. On va tout casser là, c'est la décennie belle là.
Les enfants de son village portent son numéro 9 fièrement.
L'enfant que j'étais, c'est toujours là, toujours eu cet enfant là, c'est celui-là qui m'a toujours guidé.
Antoine Dupont blessé, Maxime oublie ses doutes, tous.
Quand il joue sur un terrain, il a gardé cette âme d'enfant des favelas.
Il conduit la France, enfin sûr de lui, et gagne son deuxième tournoi.
C'est le tournoi d'Itination.
Et si 2025 était bien son année?
Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby. Oublier très rapidement, et puis repartir comme si rien n'était, comme s'il y avait tout à refaire. Breaking
news. Vincent, c'est un enfant des favelas des Kinkos, non?
Spécial rugby du jeudi, avec le midi olympique. Nous accueillons Manu Massicard.
Comment il va, Manu?
Salut Manu.
Ah, super bien.
Salut Manu. T'es pas à Bilbao là déjà?
Alors, le middle est déjà sorti. Attends. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, vous êtes des lecteurs réguliers, vous pouvez l'acheter. Hein.
J'ai acheté ce matin. Voilà.
Il est sorti en avance pour les barrages de Pro D2.
Ah bon?
Ah d'accord, c'est pour la Pro D2. Je l'ai acheté.
Ça a dû perturber toute la rédaction, ça, de sortir le journal un jour avant, non?
Écoute, on est très très souple, agile, on s'adapte à toutes les situations.
Non. Oui, alors, puis ça fait un jour de plus un week-end.
Évidemment, la une est sur la.
C'est un peu ça, oui, on part tous à Bilbao.
La finale de la Champions Cup. Un duel dans ce match peut faire basculer la rencontre, ce sera celui des numéros 9. Maxime Lucu contre eux. Denis.
Prénom et nom.
Gibson Park.
Ouais, prénom.
Prénom.
Jameson. Gibson.
On est méchant.
Vincent, prénom.
Non, c'est dur de dire.
Jameson. Gibson Park.
Voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord, Vincent, pour dire qu'il y a quelques saisons, on n'aurait pas comparé Lucu à Gibson Park? Aujourd'hui,
il a atteint un niveau.
Il est un des meilleurs du monde. Ouais. Donc, jusqu'à quel point? Où est-ce que vous le mettez, Lucu? Est-ce qu'il fait partie des joueurs hors normes? C'est-à-dire, hors normes, c'est un Antoine Dupont. Hein. Est-ce qu'il est déjà au-dessus de Gibson Park? On va en parler en parlant du match, évidemment. 32-16. Nicolas Paul Orsi est avec nous et il a rencontré Maxime Lucu cette semaine. Salut Nico.
Salut le Super Moscato Show.
Maxime Lucu, 33 ans, c'est l'histoire d'une métamorphose spectaculaire.
Oui, totalement, puisque on se rappelle des critiques après le tournoi Destination 2024, et ça l'a profondément marqué. Hein. Après la Coupe du Monde ratée des Bleus, Vincent, et l'absence d'Antoine Dupont, qui était parti disputer les Jeux Olympiques avec le rugby à 7, et ben, Lucu s'était retrouvé propulsé titulaire à la mêlée, dans un contexte explosif, pas facile pour lui. En plus de ça, les performances du 15 de France qui n'étaient pas bonnes, on avait rapidement fait une cible idéale.
Je faisais pas les meilleurs matchs possibles et en plus de ça, je ramassais derrière. Donc c'était la première fois que j'étais publiquement un petit peu mis devant de la scène, mais négativement, où j'étais un peu pris à partie par beaucoup de gens. Ouais, ça m'a touché. Honnêtement, j'ai touché le fond, mais terrible. Et c'est pour ça que je te dis que Bordeaux a été très important pour moi et ça restera vraiment fort pour moi parce que c'est à Bordeaux que j'ai réussi à relever la tête.
C'est vraiment dans son club, grâce à son club, qu'il a réussi à remonter la pente. Et le déclic, il l'a eu en Irlande avec les Bleus l'an dernier.
Ce match en Irlande, à la Viva, restera gravé à vie pour moi, parce que ça a été un moment incroyable où je me suis servi de la blessure d'Antoine, où ça a été difficile pour nous, pour me dire, Max, voilà, c'est montre que tu peux aussi, toi, aider Antoine à finir un match. Et ça a fait le match que j'ai fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais t'es capable, contre les meilleurs joueurs du monde, de faire un match propre. Pourquoi tu le fais pas tous les week-ends?
Et depuis, il enchaîne les perfs au très très haut niveau. C'est devenu un joueur adulé à Bordeaux.
Aujourd'hui, je suis tellement grandi et reconnaissant d'avoir vécu ces moments-là. On se sert des échecs. Et je vais aller plus loin. Je remercie les gens qui m'ont insulté. Je vais, entre guillemets, emmerder un petit peu parce que je prends du plaisir. Je suis heureux sur le terrain, en dehors. Et en fait, je vis à Bordeaux un rêve et je me sers de ça. Et...
En deux ans, Maxime Lucu est devenu l'incontournable joueur de l'UBB, que ce soit hors du terrain et sur le terrain. Et c'est la pièce maîtresse de Yannick Bru avant de débuter les matchs capitaux comme cette finale contre le Leinster.
Nicolas Paul Orsi donc à Bordeaux avec Maxime Lucu. Impressionnant hein, le discours de Maxime.
C'est rare de se mettre à nu comme ça et de parler de ses états d'âme. Il avait morflé, il a dit, il avait touché le fond, il était pas bien. Mais c'est dur quand tu ramasses, surtout, t'es tout le temps comparé. T'imagines, tu joues numéro 9, c'est tout le temps comparé à Dupont, tout le temps, parce que Dupont c'est le meilleur du monde, Dupont ci, Dupont là.
Dès que tu fais
pas un mec qui parle de toi, t'as pas une couverture de magazine, t'as rien. Tous les joueurs ont un ego, c'est dur, même les joueurs de rugby maintenant ont un ego beaucoup plus développé qu'autrefois parce qu'ils sont plus médiatiques, parce que c'est un sport qui est professionnel et parce qu'il faut se jouer la place, parce que les mecs s'entraînent durement et tu te fais démonter parce que tu fais pas de bons matchs. Et c'est la vie qui est comme ça, c'est pas les mecs, ils constatent que tu fais pas des bons matchs, donc ils te critiquent. Ça c'est comme ça, mais là il a rebondi d'une façon incroyable. D'ailleurs, personne ne pensait qu'il était à ce niveau. Là, on peut le classer dans les meilleurs, puisqu'il joue en équipe de France.
Donc, meilleur, mais hors norme.
Non, mais hors norme. Je vais te dire, à partir du moment où tu gagnes avec l'équipe de France, ouais, à ce poste-là, et où tu es bon dans une équipe de France qui gagne le tournoi, tu es un peu hors norme. Alors,
oui,
dire
un
que...
peu hors norme, ça ne compte pas. Ouais, c'est soit tu es hors norme, soit tu es Spider-Man, soit tu es rien du tout. Hein.
Hors norme, si c'est Spider-Man, c'est pas Spider-Man. On le voit bien qu'il a travaillé jusqu'à 33 ans pour arriver à ce niveau-là.
Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, à Gibson Park ou à Dupont?
Mais à Dupont, hein, pour l'instant il est au-dessus de Dupont, puisque Dupont n'est pas revenu à son meilleur niveau. Ce n'est pas Dupont quand il était plein modèle, mais c'était un joueur extraordinaire, magnifique. Et t'as pas besoin d'être Dupont pour être un des meilleurs demi de mêlée du monde. Et si tu le compares à Jameson, machin Park, Gibson Park, allô, le 22 à Nier, je voudrais s'il vous plaît, passez-moi le 22 à Nier.
Tu dis le 9
et donc, je pense qu'actuellement il est largement, je dis bien largement, au-dessus de
Gibson Park.
Ouais.
De l'Irlandais,
c'est
vrai. Je comparerai pas aux 9 Irlandais, moi.
Si, c'est le but. Hein. Oui. Ah ouais. D'abord, est-ce que ça va faire la différence dans le match de samedi?
Mais sur le moment, je pense qu'il est au-dessus.
Pour parler de lui, parler de ses qualités, on les connaît tous. Moi, il y a un truc qui me bluffe par-dessus tout avec lui, c'est son leadership. Il est devenu un grand capitaine. Un grand capitaine, c'est rare un grand capitaine. Dans le rugby d'aujourd'hui, c'est grand. Lui, c'est le leader, mais naturel, mais il a monté le curseur très haut parce que tous les joueurs sont derrière lui. Il amène tout le monde. Là, quand au Perpignan, ils sont en train de perdre le match, il rentre, il transforme le match à lui tout seul, c'est lui qui va qualifier Bordeaux peut-être, parce que s'il rentre pas, jamais il gagne. Jamais il gagne contre Perpignan. Ah, je le pense. Moi, j'ai vu le match, donc. Il rentre
pas tout seul quand même. Hein.
Oui, il faut du dynamisme. Il accélère le jeu.
C'est le chef quoi.
Et puis ouais, il accélère le jeu. Il a un truc pour lui, c'est que au-delà du pied qu'il a, du pied gauche, pied droit, il a tout ce gamin. Mais surtout, il accélère le jeu. C'est un accélérateur de jeu.
Qui est Gibson Park aussi? C'était dur. Non, il est aussi, lui. Il a des qualités beaucoup.
Moins défensif.
Alors, après, allez, j'allais parler de ça. Quand tu vois les plaquages qu'il fait en match, je crois que
c'est ses stats
sont monstrueux.
Après, n'oubliez pas
surtout, c'est des plaquages qui sont offensifs. C'est-à-dire qu'il recule jamais, il avance. Il prend les mecs, mais même les gros, il les retourne. Ouais. Ben, c'est impressionnant. Il sait tout faire. Alors, aujourd'hui,
donc,
moi, j'aime pas le
comparer. Un joueur hors norme, là.
Il est hors norme. Pour moi, il est hors norme. Il est devenu hors norme. Voilà. Il est devenu
la même hors normité que volontairement que Dupont.
Si vous voulez faire un comparatif avec Dupont, c'est pas le même joueur. La vérité, c'est que c'est pas le même joueur.
Non, le ballon est mieux porté par Dupont. Lui, il est plus défensif, il est plus organisateur. Il est peut-être moins individualiste.
Mais,
peut-être.
Mais Dupont est un patron de la même façon. On va pas remettre en question.
C'est difficile de comparer les deux. C'est que Dupont, c'est le meilleur.
Après, gros avantage pour Lucu, très très bon buteur. N'oubliez jamais de parler du rôle de buteur parce qu'il faut assumer. Quand tu prends des mecs sur la courge tout le match. D'ailleurs, il bute très bien.
Tu as raison de le dire. Dupont bute pas. Au début, c'est Mathieu Jalibert qui butait. Il a laissé le but à.
C'est Yachvili, en fait.
À Maxime. Ouais, mais
c'est un peu Yachvili.
Pour finir, c'est vrai que lui, à lui seul, il peut faire la différence. Il peut amener Bordeaux au titre champion d'Europe. Sans lui, ça serait plus dur.
Manu Massica.
Non, ça serait plus dur aujourd'hui sans lui.
D'accord.
Ouais, Denis a quasiment tout dit sur l'influence qu'il peut avoir sur son équipe et sur l'adversaire. Si, Vincent aussi également. Cette partie de leadership, c'est certainement ce qui lui fait le plus ressembler à Antoine Dupont. Après, comparer les joueurs, vous l'avez dit, Vincent l'a brillamment dit, s'ils sont totalement rattrapé. Incomparables. Et tu peux pas dire qu'ils sont au même niveau directement. Oui. C'est pas les mêmes joueurs du tout.
Non,
en revanche, sur le leadership et leur capacité à influencer leur équipe et l'adversaire, là tu peux comparer entre un Dupont et un Max Lucu. Ouais.
Il est au-dessus de Gibson Park.
Ouais, ça tu le verras là. C'est des trajectoires qui sont un peu similaires. C'est mecs qui se sont construits sur le tard, qui ont beaucoup d'influence sur le jeu. Je pense que Lucu a plus de caractère et de talent que Gibson Park, qui lui est plus dans le collectif. Mais c'est un peu aussi à l'image de son équipe, le Leinster. C'est une très très grosse formation et c'est hyper huilé. Et si ça joue aussi bien, c'est certainement qu'il y a un très bon numéro 9.
Lucu plus fort défensivement que.
Oui. Oui, je pense, ouais, tout à fait. Mais,
Tony Stephen.
C'est la grande différence des deux, puisque le comparatif est sur les deux, c'est qu'il y en a un, alors qui est peut-être un peu seul avec sa sélection irlandaise, mais qui est titulaire systématiquement avec l'équipe nationale, et Maxime Lucu.
Il n'a pas joué le tournoi
parce qu'il était blessé au genou, et ensuite il n'est pas appelé sur la fin. C'est le Garek et Serein qui sont devant lui. Alors
oui, mais si Dupont était irlandais, je pense que Gibson Park serait pas évolué.
Là, la problématique pour Maxime Lucu, c'est qu'à un moment donné, si tu vas être classé dans les joueurs hors norme, ce que tu fais avec le bébé, c'est exceptionnel. Il le fait peut-être un petit peu sur le tard parce qu'il a mal vécu cette période de 2024 avec le tournoi et le fait d'être au plus haut niveau avec l'UBB fait que c'est devenu un joueur hors norme parce qu'il a réussi à faire gagner l'UBB, mais pour être classé parmi ces joueurs tout en haut, c'est qu'à un moment donné il y a aussi le club, mais il y a l'équipe nationale et c'est peut-être ce qui va bloquer la carrière de Maxime Lucu sur nos qualificatifs à nous. C'est que si à un moment donné, si t'es pas titulaire avec le 15 de France, est-ce que ça peut faire de toi un joueur hors norme?
Non.
Elle est là la problématique pour Maxime Lucu. C'est un joueur fantastique.
Et est-ce qu'il peut lui prendre la place? Non.
Non, la problématique, en fait, c'est qu'il ne prendra jamais la place à Antoine Dupont.
Mais Gibson Park est menacé. Parce que la roue me dit qu'il y a son frangin qui joue au poste de numéro 1. Jurassic. Qui peut jouer.
Qui a 20 ans, qui a un phénomène.
Ouais, qui a un phénomène.
Il en forme, la roue.
Non, mais t'as raison, ça démarre bien l'après-midi.
L'équipe nationale règle le problème sur le côté hors norme. Malheureusement, de fait, c'est très dur, mais c'est comme ça.
Et ce qui est beau dans les déclarations de Lucu, c'est que lui, il a pris conscience quand même qu'il pouvait monter son niveau. C'est ça que je
la part de la confiance qui est hyper importante.
Et ça c'est formidable parce que tout d'un coup il est devenu très très bon Stephen, parce qu'il a pris conscience.
Et
ça,
il a franchi un palier
sur le tard. Et la différence, c'est qu'avant 2025, quand Dupont avait un pépin, on était tous plus ou moins inquiets. Aujourd'hui, si Dupont a un pépin, il n'y a pas la moindre inquiétude parce que tu sais que c'est Maxime Lucu qui arrive derrière, alors qu'avant c'était pas le cas.
C'est presque une question philosophique. Est-ce qu'on peut être un joueur hors norme quand on est le numéro 2 d'un joueur hors norme?
Oui, moi je pense que oui.
Il y a de la place. Dans le groupe de Roland,
ça se joue à quoi? Ça se joue à rien.
Regarde, il y a eu Charvet, c'est là dans l'histoire. Écoute-moi,
il peut faire l'affaire.
Damien Penaud est un joueur hors norme. Et pourtant, il a vu passer devant lui un autre joueur hors norme.
Oui, mais Damien Penaud a fait beaucoup de choses avec le 15 de France, Pierrot.
Oui, mais aujourd'hui, il n'y est plus.
Il
est toujours le même joueur.
Il est meilleur
marqueur. Il n'a pas baissé de niveau, Damien Penaud.
La vérité, c'est c'est qu'il n'y a pas de place derrière Dupont quand Dupont est au sommet de son arc sur ces dernières années. Mais on l'a bien vu.
Voilà.
Et comme il n'y avait pas de place derrière Blanco.
Le problème de Damien, c'est qu'il a la concurrence qui arrive, c'est tout. C'est de la grosse concurrence.
Oui, mais la concurrence, que Fabien accepte, tandis que la concurrence avec Antoine Dupont, Fabien ne la voit pas.
Jusqu'à quand? Comme le mec a joué dans l'ombre de Blanco, qui était extraordinaire, des mecs que vous ne rappelez pas, mais comme ça, le Franck et tout ça, qui étaient des joueurs extraordinaires. Et qui n'ont jamais pu jouer parce qu'ils avaient des mecs comme Cela, des mecs comme Cela. Derrière, il y avait des mecs, des bons centres qui n'ont jamais eu une sélection. Puis des fois, t'as
Jean-Michel, des mecs. Il a dû attendre ta suspension pour jouer.
Il n'a pas attendu très longtemps. Hein.
Ah oui, il fallait préciser que ce débat, c'était avant la finale de la Champions Cup où il a été énorme.
Gibson
Park, trapinette comme dit Vincent.
Trapinette. Voilà. Dans un instant, Pierrot, tout de suite, on va jongler, avec un ballon, tu sais jongler, mais on va faire mieux que ça.
Alors parfois nous on se demande si ce genre d'invité c'est vraiment Moscato Show compatible, parce que nous on parle de compète quand même. Alors c'est de la compète, mais c'est du foot freestyle.
RMC, le cri du cœur du super Moscato
Show. Notre cri du cœur, c'est Tristan Gack. Il est champion du monde de foot freestyle et ce week-end, il remet son titre en jeu en Pologne. Salut Tristan.
Bonjour.
Salut Tristan.
Alors Tristan est arrivé en studio avec un ballon. Il nous a fait une petite démonstration.
Ah, c'est pas pareil.
C'est très impressionnant. Hein.
C'est agile, nous dirons.
Vincent, tu pourras nous décrire en quelques mots ce que tu viens de voir.
C'est des figures, c'est un peu comme je disais, les Harlem Globetrotters, mais il fait tout avec les pieds. Avec les pieds, avec la tête, avec le dos.
C'est du jungle plus.
C'est du jungle de haut niveau, de très haut niveau.
Ça va très vite.
Ça va très vite.
Tristan, est-ce que tu peux donner une définition vite fait comme ça de ta discipline du freestyle?
Alors, vite fait, je dirais que c'est un sport et un art à la fois. Et c'est déjà très complet.
Ça ressemble un peu au breakdance, on est d'accord? Enfin,
c'est
dans l'idée.
C'est totalement ça. Dans l'idée du battle, du 1v1, de la façon dont une compétition se déroule, c'est exactement comme
ça. C'est sûr de la musique? Tu choisis ta musique ou il y a de la musique?
Non, la musique arrive en impro. Donc, on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et c'est à nous de nous adapter, de prendre les sons clés.
Ah, d'accord. Donc, il te faut, parce que j'étais pas au courant du tout de ça. Il faut un peu danser en jonglant sur une musique qu'on improvise, quoi.
C'est exactement ça. En fait, on doit réaliser notre tricks en accord avec le son.
C'est une chorégraphie.
En rythme. Et la musique est importante pour toi? Est-ce que sur celle qu'on va te proposer?
Ouais, c'est très important d'être en accord avec le son. Ah ouais. Sinon, on perd des points. Donc, la musicalité, c'est un des critères clés du freestyle.
Si tu balances des slow, t'es obligé de coincer ton ballon avec un partenaire au milieu, comme ça.
Alors, donc, Tristan, tu vas faire les championnats du monde. T'es champion en titre 1, on le rappelle, ce week-end en Pologne. Après, pour y voir clair, la compétition, c'est un tableau classique, 1 contre 1, et le vainqueur passe au tour suivant.
Exactement.
Et le format d'un match, c'est quoi? C'est combien de temps ton run? Ça dure combien de temps?
C'est 3 minutes. On 3 a 3 minutes. Fois 30 secondes. Donc moi je vais faire 3 fois 30 secondes, okay. Et l'adversaire 3 fois 30 secondes.
Et c'est chaud quand même.
Et ensuite c'est noté. Ok.
Tu dois y laisser la quoi, la 30 secondes d'affilée, 3 fois 30 secondes, mine de rien, c'est une dépense d'énergie qui est quand même. Tu dois monter dans les tours assez haut, non?
C'est court mais très physique, ouais. Sur un court laps de temps. Ouais.
Ça démarre sur les 8e de finale ou?
Directement top 16. Ouais, top
16. Alors, il y a un truc qui est évident. Tu nous as fait une démo qui a duré, je sais pas, 1 minute, 1 minute 30.
Ouais.
Tu avais déjà le souffle. C'est très physique,
court.
C'est très cardio. C'est quoi les qualités?
Physique, ouais. Ouais.
Alors, faut dire que tu fumes un peu la pipe, mais bon, ça, c'est pas bon pour
les poumons. C'est quoi les qualités principales? C'est cardio ou technique?
Ah, c'est vraiment un mélange des deux, mais autre que le cardio et la technique, je pense que la créativité, c'est quelque chose qui prend une place super importante.
Il faut inventer des trucs.
Ouais, parce que le sport est récent et la créativité, c'est le critère majeur.
C'est là où tu fais la différence?
Ah, c'est complètement.
D'amener, personne ne le sait, tu dis, moi j'ai un truc dans mon sac, j'ai plus d'un tour dans mon sac, là tu sors une figure qui n'a jamais été faite. Et là tu peux marquer des points si tu la réalises belle.
Exactement.
Hop, là tu baisses le pantalon, hop, tu mets le.
Par exemple,
c'est un sport où il y a des juges, donc est-ce que parfois il peut y avoir des un peu controversé.
Comme tous les sports où il y a un jury, forcément, c'est toujours un peu controversé.
Et j'ai vu que pour le côté créatif, tu as fait appel à un breaker.
Exact. Mmh. J'ai fait appel à Arshad, donc il s'appelle, mon professeur de breakdance. Et donc, on a exploré beaucoup plus de mouvements avec lui. Et ça m'a permis de développer une toute autre partie de la créativité que personne n'avait perçue jusqu'ici. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai été champion du monde l'an dernier.
Et comment est-ce qu'on compose ton staff? T'as quoi? T'as un préparateur physique? T'as un staff médical? Comment quand tu voyages, c'est très complet?
Moins complet qu'un footballeur ou qu'un rugbyman, bien sûr. Mais oui, j'ai mon petit staff. Bon, prof de break, prof de gym, nutritionniste et prépa physique.
Un gonfleur de ballon.
Mais il y a pas de, c'est pas un coach spécifique en fait.
Non, alors non, pour la partie freestyle, bah comme c'est un sport qui est très récent en fait.
Ça a rien à voir avec le foot.
Rien à voir.
Tristan Gack, champion du monde de foot freestyle dans le Super Moscato Show.
Justement, quel est ton rapport au foot? Est-ce que tu aurais aimé être joueur de foot professionnel? Ça donne quoi quand t'es sur un terrain? Tu fais un five avec des copains, ça doit t'arriver. Est-ce que tu leur mets la misère ou est-ce que c'est compliqué? Le vrai foot.
C'est compliqué.
Compliqué?
Ah, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Alors, j'ai fait du foot pendant longtemps, donc j'ai quand même des bases.
Oui, t'as des bases de foot.
Et effectivement, techniquement, je vais être plutôt bon. Maintenant, j'ai pas l'endurance d'un footballeur, j'ai pas le physique d'un footballeur. Voilà, on a un coup d'épaule.
Techniquement, tu vaux quoi sur du foot à 11?
Non, je pense que techniquement,
contrôle pass, ouverture, dribble,
il veut te recruter pour son club de pompe. Mais non, mais c'est la différence, c'est comme peintre en bâtiment et peintre artistique. Oui, ça n'a rien à voir. T'es peintre, mais ça n'a rien à voir.
C'est ça.
Tristan Gack, donc champion du monde de foot freestyle. Si on te met là, comme ça, avec un ballon, à te demander de faire uniquement des jongles basiques. Tu tiens combien de temps?
Deux jours.
Combien?
Je pense que ça peut durer très longtemps.
Une heure, deux heures, trois heures.
Après, bon, on est jamais à l'abri d'une erreur, mais.
Il y a des records, moi, j'imagine.
Oui, c'est sûr, mais j'ai jamais été au-delà de 2000, quoi.
Après, 2000, 2000. C'est inintéressant, mais c'est pour se rendre compte de la maîtrise.
Ah oui, non, mais je pense que même bien au-delà. Je pense que c'est 10 heures.
Ah oui.
C'est physique après.
C'est ça, c'est physique.
Je m'arrête quand c'est.
C'est dingue, on a des points communs, c'est fou.
Quel est le joueur de foot actuel, la star du foot?
Je te dis que ça n'a rien à voir.
Qui serait le plus doué en foot freestyle? Quand tu vois Neymar là, son prime,
Neymar excellent. Mais alors le meilleur que j'ai vu, c'est Paul Pogba qui a fait un double tour du monde. Et très surprenant pour un footballeur de faire un double tour du monde.
C'est-à-dire
épatant. C'est-à-dire passer deux fois sa jambe autour du ballon.
Et lui, il est fort là-dedans.
Et exceptionnel.
Ouais, mais tu l'avais vu de loin parce que c'était pas sa jambe.
Alors le tour du monde, c'est très simple. Quand vous faites un jongle classique, qui part du pied droit à la balle, qui part du pied droit, qui revient sur le pied droit. Entre temps, le pied fait deux fois le tour. C'est ça, ballon pour un double tour du monde.
Ça, c'est ça le tour du monde. Et c'est compliqué, crois-moi. Moi,
très difficile.
C'est très 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 compliqué de
faire ça. Eric doit bien le faire.
On peut imaginer que Ronaldinho à l'époque, Neymar,
les techniciens, Maradona, tout ça.
Neymar.
Neymar,
puisqu'on parle de Neymar, je sais pas si tu as cette image en tête, ça a quelques années, c'est avec un entraînement avec le Brésil, ils font tomber un ballon du toit du stade, donc je sais pas combien il y a, 50 ou 100 mètres.
Contrôle.
Il arrive à faire le contrôle, tu saurais le faire?
Ah là je sais pas.
C'est dur,
je sais pas parce que c'est très différent.
Parce qu'il y a surtout une évaluation en l'air.
Ça arrive
qui
vite
est très haute. Et comment t'évalues? Il faut avoir quand même le sens de ça.
Faut l'évaluer. Absorber toute la vitesse.
Mais je pense que si t'es pas habitué à avoir des gringolets très haut,
c'est ça.
Comme une chandelle, c'est l'évaluation.
Exactement.
Tristan Gack, champion du monde de foot freestyle, tes favoris des championnats du monde là qui arrivent?
Deuxième favori. Mais 12 nouveaux gestes.
Qui est le favori?
L'Irlandais qui s'appelle Yassem Arley.
Alors, les 12 nouveaux gestes, tu peux nous en parler ou il vaut mieux que ça reste secret?
Ça restera secret.
Il vaut mieux que ça reste secret.
Il nous écoute.
Il faut qu'il soit. Il y a du breakdance.
Il y a beaucoup de breakdance. Magnifique.
Il faut que les juges soient étonnés, en fait.
C'est ça.
Ouais, il fait moonwalk avec le pied derrière la tête.
Par exemple, sur le son.
Il y a du moonwalk?
Non, il n'y a pas de monologue.
Moonwalk avec le ballon sur le crâne.
Est-ce que
tu prépares des mini-séquences que tu replaces après en fonction de la musique ou c'est de l'impro total?
Super intéressant. Ouais, moi je prépare justement des petites séquences de 2-3 gestes généralement parce que j'ai besoin des liaisons et des connexions entre les gestes. Et donc effectivement, travailler de façon individuelle les tricks, ça peut être compliqué.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être entre guillemets bloqué ou en tout cas pas servi par une musique? C'est-à-dire que tu sens pas la musique et tu fais un run naze?
Ouais, complètement.
Le mec qui t'envoie la danse des canards ou Vincent Delerm violé, Benjamin violé, ou
Patrick Sébastien, les serviettes.
C'est parti.
Mais complètement, parce que des fois le rythme ne correspond pas. Moi j'ai un style très dynamique qui est très vif. Donc si la musique est très lente, ça peut être
Ça peut être gênant.
Ça peut être gênant pour moi.
Tu t'envoies Chadé comme smooth opérateur.
Après, donc champion du monde de foot freestyle. Merci beaucoup Tristan.
Merci.
Bonne chance pour ta compète. Voilà Tristan Gack, c'est du boulot attention. Et tu vois, il y avait Maradona qui faisait ça naturellement.
À l'échauffement souvent là.
Et puis des mecs comme Tristan qui s'entraînent toute une vie pour réussir la même chose.
Après il nous a dit sur le terrain, il est pas bon.
Non.
En match, même il fait des fives avec ses potes, c'est pas le meilleur. C'est curieux.
Journal moyen
première édition avec une critique ciné qui avait découpé un film français, le Marsupilami.
On
Vont-ils réussir à le prononcer?
Non, je me souviens, on a fait un tour de table, c'était pas facile. C'est tout de suite le Journal Moyen Première Édition.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Il est 15h45 sur RMC, c'est l'heure du Journal Moyen, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, les ciné, le cinéma et les critiques ciné, Vincent. Ouais. J'ai la meilleure critique ciné, enfin la plus terrible de l'année. Ça tombe dès le mois de février. Timothée Chalamet allume l'OL. Et oui, c'est comme ça aujourd'hui. Et puis le classement, c'est dans le temps des villes en France où il fait bon vivre. Le top 500, Gaillac est 1492e.
Mais non, mais mais Gaillac, c'est la Toscane en France, je vous le dis.
Non, il y a Albi, mais il n'y a pas Gaillac.
Y a pas, oui, mais Albi, Albi parce qu'il y a la cathédrale d'Albi. Les Albigeois, la révolte des Albigeois.
Vous écoutez RMC à Gaillac, à le stade Bernard Laporte. C'est moi.
Oui, c'est pas pareil. Oui, mais c'est un lieu sacré.
Vous écoutez RMC, c'est le 2520e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Alors les grandes gueules ce matin, 9h midi, RMC RMC Story. Pierrot, tu as assisté à la scène sous les coups de 12h30. On a vu arriver Alain Marchal dans notre bureau avec Pierrot. Alain Marchal qui dit: est-ce qu'on vous a transmis la saucisse d'Olivier Truchot? Donc j'ai dit non Alain, alors à quelle heure? Il m'a dit bah c'est à telle heure, c'est à 11h12. Vas-y. Donc Olivier Truchot a tenté de placer une expression. On est sur un accident d'expression, Vincent. Accident. D'accord. De mâchoire. Olivier Truchot dénoncé par son frérot. Oh là, Alain Marchal. Son frérot.
La France était le pays le plus en retard en matière de développement de chemin de fer. Les premières années, on a terminé, on était le pays le plus en avance. Parce que la France est toujours un pays, c'est le pays qui part le plus tard et c'est le pays qui arrive en tête. C'est ça ce qui va se passer.
Rien ne sert de courir un point. Bah, vas-y, Bruno.
Je vous ai déjà rencontré, on a fait déjà des débats à l'époque des réformes ferroviaires.
Incroyable, non? Vous avez
un problème là.
Il s'est lancé. Voilà. Bravo, monsieur Truchot.
Ah ouais, si cela, c'est le bouilli.
Il a coupé en deux.
Et merci à la Marshall, là, du coup.
Bien sûr, merci.
La délation.
La délation, ça plaît toujours, la délation.
Cinéma, allez, cinéma. Et là, c'est énorme. Je tiens la critique cinéma la plus terrible de l'année. Tu l'as vu, Stéphane, oui, sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur la radio belge très connue, RTBF, la première. Le critique s'appelle Hugues Taillé. Il doit faire la critique du film de Philippe Lachaud avec Jamel Debbouze, Le Marsupilami. Ça commence. Alors je vais décrypter en trois extraits parce que c'est un peu long. Premier extrait, ça commence comme ça.
Passez votre chemin. Ah. Ce film n'est pas pour vous. D'accord. D'ailleurs, pour qui est ce film? Je me pose la question. Parce qu'il est objectivement pour les enfants. Mais à partir du moment où il y a des gags avec du Viagra et des cuvettes de WC, je me demande vraiment si c'est un film à montrer aux enfants. Alors Philippe Lachaud est donc l'auteur d'Alibi.com. Il est présenté comme le roi de l'humour potache. Moi, j'appelle ça le roi du comique de Noces et Banquets, où Patrick Sébastien apparaît presque comme Marcel Proust à côté de lui. C'est vous dire. Et ici, il est question d'un type qui travaille dans un zoo, qui va devoir ramener clandestinement un colis mystérieux d'Amérique du Sud. Dans ce colis, eh bien, il y a un œuf. Eh bien, pendant la croisière de retour, l'œuf éclos et un bébé marsupilami en sort et sera l'objet de toutes les convoitises.
Ça va. Pour l'instant, ça va. Au début, je me suis dit, ça va. Pas besoin d'aller le voir.
L'humour de Noces de Banquets, ça frappe un peu des
gens. Il va monter en puissance, Vincent. Là, il va parler à la fois dans le deuxième extrait de l'image, la qualité de l'image, c'est important au cinéma, et puis le début du casting.
J'ai déjà évoqué les gags scatologiques. Ça, c'est le premier problème. L'image est d'une hideur repoussante. À côté de ça, une publicité pour le facteur Ricoré apparaît comme bien éclairée. Il y a évidemment le casting. Alors, il faut savoir que Philippe Lachaud est fidèle en amitié. Donc, nous avons toujours la bande à Fifi. C'est-à-dire des acteurs qui ne travaillent qu'avec lui et pour cause. On voit pas qui les engagerait. Ce sont vraiment des histrions de bas étage, des comiqueux, une fois encore, dignes de faire des blagues dans Les Noces et les Banquets. Et il y a des guest stars. Alors là, Jean Reno. Mais Jean Reno, c'est l'inverse du bon vin. Plus il vieillit, plus il est mauvais. Il y a Didier Bourdon, qui est devenu une sorte de label de médiocrité dans ses comédies françaises. Et il y a le pauvre Jamel Debbouze qui reprend le rôle qu'il avait joué dans le film d'Alain Chabat.
Alors, il y a le pauvre Jamel Debbouze qui reprend le rôle qu'il avait dans le film d'Alain Chabat.
C'est un phénomène. D'après moi, il n'a pas aimé le film. Non.
Alors, oui, il n'a pas trop apprécié. Tu veux écouter sur Jamel, Vincent?
Oui.
Alors, Jamel, je sais qu'il écoute RMC. Ouais. Jamel, il a de l'humour, Jamel, je pense. Ce n'est que des paroles.
Ça ne tient qu'à lui.
Ça ne tient qu'à lui. D'être content qu'on le diffuse en plus. C'est pour Jamel.
Et Jamel, là, c'est carrément pathétique parce qu'on voit qu'il est à la recherche du succès perdu. Il enchaîne les bides depuis au moins 5 ans et donc là, il espère revenir dans un grand divertissement familial. Ajoutons à cela que la finale du film est carrément un plagiat de E.T., que le bébé marsupilami ressemble à un gremlin, qu'il y a des tubes de rock, d'électrique, là, et d'orchestra et d'autres qui ne viennent rien faire dans l'histoire. Simplement, c'est un navet, mais c'est un navet richement doté. C'est une catégorie particulière du navet, c'est le navet très riche, 29 millions d'euros. Donc, il faut qu'on voit un peu l'argent à l'écran et dans la bande-son. Bref, vous aurez compris que j'ai trouvé mon navet de 2026, je ne dois plus chercher. On n'est pas loin dans l'année, mais tout est déjà en ordre, je peux me reposer dans mon classement de fin 2026. J'ai déjà mon top 10 du navet. Merci Philippe Lachaud.
Voilà, c'est
bon week-end.
Merci.
J'avais vu ce soir, bah, ça
fait... Vincent, nous on rigole, mais quand t'es Philippe Lachaud, Jamel, tu bosses sur un film, c'est du boulot.
Ouais.
Là, t'écoutes ça, tu...
Ça peut quand même marcher. Hein.
Bien sûr, ça n'a rien à voir.
Il y a les vacances qui arrivent, je pense que ça va faire un carton.
Quand tu vois les films avec Bourdon et tout ça, ça marche des fois, donc Cocorico et compagnie, donc celui-là, il peut marcher.
Pierrot, est-ce qu'on pourrait lui envoyer des bandes de version de touristes pour qu'il nous fasse un...
Oui,
ça se critique aussi, ça peut être sympa.
Moi, une fois, dans le film, on voulait tout casser, là. Il y a un mec qui m'avait tué.
Ah oui, je t'ai vu,
pareil. Et là, on voit arriver, à un moment donné, et là, on voit arriver sur la scène le pauvre Moscato. On voit le mec qui dit qu'il n'avait rien à faire là, le pauvre rugbyman et tout. Le mec m'avait mis, mais minable.
Vincent Marsupilami, premier jour de sortie, donc c'était hier, mercredi, avec les avant-premières, mais 300 000. C'est énorme.
Très bien. Donc, ça va faire 3 millions.
Longue vie à ce film, voilà. 3 millions. Allez-y avec les gamins, c'est sympa.
Est-ce que ce serait pas.
Attention, combien de salles? Ils ont dû bombarder 700 ou 800 salles.
600
salles. Ouais, 600 salles.
Est-ce que ce serait pas sur la jalousie belge? Pas capable de faire un film sur leur.
Marsupilami, c'est belge, donc c'est belge, ils se disent que ça leur appartient un peu peut-être.
Ah ouais, donc ils ont les boules.
Puis il avait envie de se faire plaisir aussi.
Non, puis après, écoute-moi, encore une fois, je te dis, les bons films, c'est rare. C'est très rare.
Comme un bon match.
C'est comme un bon match. Sur 100 matchs, il en a fait 5 de bons.
6 ou 7. Objectivement, 4.
Ah, on me dit 4. Denis Charvet me dit 4.
4. Denis, il en a fait 4.
Et toi, Vincent, sur 500 matchs, il en a fait combien de bons?
Mais à vous deux, vous avez combien de sélections, Yoann et Vincent?
Moi j'en ai 5.
Et toi?
60 et quelques.
Ah ouais, 64.
Et toi, Stephen?
Moi j'en ai 15.
Au basket, c'est nul.
Ouais, mais au basket, au basket, tu joues 4 dans la journée.
Tu joues 4 dans la journée.
Même Pierrot, il peut en avoir.
J'en ai une.
T'as une sélection, toi?
Avec qui?
L'équipe de France, c'est PPN.
USSS.
En France, au basket, tu fais 2 mètres, t'es sélectionné.
Et dans une heure, Journal Moyen, 2ème édition.
Oui, avec des saucisses, comme d'habitude, on adore ça. Et puis des vents radiophoniques de Vincent Moscato qui prend des petits bides en direct à l'antenne. On adore se moquer de Vincent.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.